Showcase. La première fois que j'ai entendu ce mot, je crois que c'était en 2005 et sur France 2. À l'époque, souvenez-vous, était diffusée cette série américaine sur ces affaires classées sans suite. Lily Rush, l'héroïne, était chargée de résoudre des crimes parfois vieux de 100 ans, apportant paix et justice des décennies plus tard. Mais loin des séries sulfureuses, qu'est-ce qu'un cold case ? Toute affaire non résolue en est-elle un ? Quel type d'indice permet de rouvrir un dossier ? Comment, des années plus tard, travailler dessus ? Et quelle justice vise-t-on quand il y a prescription ? Aujourd'hui, vous saurez tout sur les cold case sans avoir osé le demander.
Non mais arrêtez, je vois pas pourquoi on en fait tout un plat de mammouth de cette morte. On s'attroupe, on s'attriste. Mais bon, ça arrive tous les jours de se faire bouffer par une bête.
C'est pas une bête qui l'a tué.
Bien sûr que si.
Eh ben, si les bêtes se mettent à attaquer dans les grottes maintenant...
Mais arrêtez avec vos bêtes. Vous voyez bien qu'elle est entière. Un animal, il l'aurait mangée.
Bah, sauf s'il sort de table.
Ou qu'il est anorexique.
Non. Cette femme est morte par la main de l'homme.
Tué par la main de l'homme ? Mais jamais quelqu'un n'a tué un autre quelqu'un.
Ah ben voilà. Regardez, tous ces orifices ont été cousus. Et voici le gourdin ensanglanté qui a servi à la tuer. Voilà. Vous pouvez le toucher, allez-y, marche plus.
Un homme a tué un autre homme.
Qui en plus est une femme.
Nous sommes face à quelque chose qui n'est jamais arrivé. J'appelle ce quelque chose un crime.
Bonjour Marie-Laure Brunel-Dupin.
Bonjour.
Vous êtes lieutenant-colonel, chef de la division des affaires non élucidées, qu'on appelle donc Diane, de la gendarmerie nationale. Alors on a bien en tête ce qu'est un crime, comme on l'a entendu dans cet extrait du film d'Alain Chabat, comme on pourrait le prononcer, je ne sais pas vraiment si c'est la bonne prononciation. Donc on a bien en tête ce qu'est un crime, mais qu'est-ce qu'un cold case ? Et est-ce qu'on parle d'ailleurs de cold case en France ?
Alors nous, on n'aime pas le mot cold case, d'abord parce que c'est un anglicisme et qu'on tient à notre langue française. Et puis derrière le concept de cold case, il y a un concept de série télé qui est loin de notre réalité. Donc nous, on parle d'affaires non élucidées et elles peuvent être anciennes ou récentes, chaudes ou froides, on peut dire, comme on dirait dans le jargon. Mais pour nous, un cold case, ça n'existe pas. C'est une affaire ancienne, froide, complexe, parce qu'il y a cette notion qui vient... C'est pas tous les homicides qui sont traités et retraités des années plus tard ou investigués. C'est des homicides complexes, difficiles à résoudre, et ils peuvent être anciens ou actuels.
Qu'est-ce que ça veut dire « complexe » ?
Alors, complexe, c'est que on a des éléments qui peuvent avoir été dissimulés par l'auteur, un maquillage de scène de crime, une intervention particulière pour effacer ses preuves. Ça peut être par rapport à la victime et à son profil, à ce qu'on appelle la victimologie. C'est une affaire qui est difficile à résoudre et pour laquelle on manque d'éléments.
Donc ça veut dire que tout homicide, déjà il faut que ce soit un homicide.
Alors oui,
ça peut pas être un accident de la route, ça peut pas être...
Non, c'est un homicide.
Donc c'est forcément un homicide, donc ça veut dire que tout homicide n'est pas... élevé, c'est pas le bon terme, mais élevé au rang de cold case.
Non, ils n'ont pas toute cette caractéristique d'affaires non élucidées complexes, anciennes. Notre acronyme, du coup, deviendra un peu long, mais parce que c'est pas l'affaire en elle-même qui est difficile à résoudre, c'est juste qu'on n'a pas trouvé l'auteur, mais on a bien compris le crime. Il y a cette notion de complexité, de difficulté à le comprendre, et c'est aussi pour ça que c'est repris des années plus tard par des équipes pluridisciplinaires, comme on a la Diane.
Alors, qu'est-ce que c'est la Diane, justement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Alors, la division des affaires non élucidées, elle s'inscrit au service central de renseignement criminel de la gendarmerie, qui lui-même est au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Donc, c'est une division qui comprend des capacités, c'est-à-dire des spécialités qu'on ne trouve qu'au niveau central, à Pontoise, et qui viennent, en appui ou en direction d'enquête propre, reprendre des dossiers ou appuyer des unités sur des dossiers. Mais sa vocation, justement, ce n'est pas que les affaires anciennes, c'est des affaires non élucidées de 2 heures à 30 ans, complexe.
Ah oui, deux heures.
À deux heures, ça peut être une scène de crime découverte il y a deux heures, qui a des caractéristiques particulières et qui vont être tout de suite, on sait, difficiles à résoudre. Et en fait, on va mettre tout de suite la force gendarmerie, avec ses capacités au niveau central, évidemment les unités locales. L'idée, c'est qu'une affaire chaude ne devienne pas froide.
Alors, si je vous suis bien, Marie-Laure Brunel-Dupin, une affaire non élucidée n'a pas cette idée de temporalité, ça n'est pas sa date qui compte, c'est plutôt son caractère. C'est là ça. Où Cold Case, d'ailleurs, ne colle pas du tout,
c'est
sur froid ou chaud.
C'est une affaire non élucidée, elle peut être froide ou chaude, mais ce qui a sa caractéristique, c'est d'être non élucidée et complexe. Donc effectivement, cette notion de temps, elle n'y est pas, même si dans l'esprit commun, on se dit qu'une affaire ancienne est forcément froide. C'est pas le cas. Tout comme on a des dossiers qui sont très anciens et qui sont encore très actuels et qui sont encore travaillés par beaucoup d'enquêteurs.
Alors, vous voulez dire très ancien mais encore chaud parce qu'il y a de nouveaux éléments sans cesse ou parce que les enquêteurs, je ne sais pas d'ailleurs comment les nommer, vous allez m'aider là-dessus, sont en train de travailler dessus?
Ben les deux, en fait. On peut avoir des affaires très anciennes où il y a encore des enquêteurs et des actes, où, voilà, beaucoup d'actions sur le dossier. On peut avoir des affaires anciennes qui étaient refroidies et qui sont réchauffées ou réactivées par un élément nouveau.
Alors ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que vous entendez par élément nouveau? Est-ce que, quand même, cet élément nouveau, il doit avoir un caractère particulier? C'est pas simplement... j'imagine que c'est pas pareil, une nouvelle empreinte qu'est-ce que je pourrais trouver comme élément banal pour ouvrir, un élément, quelqu'un qui appelle, un témoignage, ouais.
En fait, non. Tout élément nouveau va être travaillé. Justement dans l'espoir que peut-être ce petit élément nouveau qui a l'air insignifiant va déboucher sur quelque chose de plus fort et de plus qui va aider sur la véracité, à faire manifester la vérité. Donc ça peut être un témoignage, ça peut être une nouvelle technique scientifique, ça peut être l'acharnement des enquêteurs à ne pas oublier et à réouvrir le dossier régulièrement pour que la prescription ne se mette pas en route. Donc il y a plein d'éléments qui peuvent faire ça. Ça peut être l'arrestation d'un tueur, pour se poser la question de est-ce que ça pourrait être lui. Ça peut être une femme qui a entendu sur un autre dossier et qui se souvient de quelque chose dont elle n'a pas voulu parler.
Et ça vous fait penser à un autre dossier sur lequel vous étiez en train de travailler.
Donc, en fait, il n'y a pas de liste de type de l'élément nouveau qui va permettre de réouvrir. C'est en fonction de ce qui va se présenter.
Mais ça suppose presque une question aussi de communication, c'est-à-dire qu'une femme peut être entendue à l'autre bout de la France par une gendarmerie. Comment vous allez avoir cette information-là? Qu'est-ce qui va faire que les gendarmes sur place, ou peut-être les policiers d'ailleurs, vous nous direz comment vous travaillez aussi avec les magistrats et aussi avec les policiers, comment cette information-là, elle va lui sembler pertinente à cette personne et vous puissiez la voir?
Alors ça passe par un gros effort de communication et puis par cette structure, Diane, qu'on met en place, qui centralise, qui coordonne, qui fédère les forces.
Donc vous savez tout ce qui se passe dans toutes les gendarmeries en France?
Alors j'aimerais, mais je ne sais pas si on pourrait traiter toutes ces informations. En tout cas, on s'organise pour que, sur ces sujets particuliers, les enquêteurs aient toujours quelqu'un au bout du fil pour pouvoir leur dire « information bien prise en compte, on va vérifier ». Et donc ça, c'est important pour nous, qu'ils puissent compter sur nous. Aujourd'hui, par cette communication qu'on fait sur la division, ils savent qu'on est là, qu'on existe, qu'on est là pour les appuyer. Parfois, c'est par un mail, c'est par un coup de fil, mais ils ont cette capacité de nous dire « Ah, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser, dans le doute, je vous l'envoie ».
Donc ça veut dire que ces gendarmes-là ou les policiers sont au courant des affaires qui sont en votre possession?
Non, ils sont pas au courant. Ils sont pas forcément au courant parce que ce serait compliqué de rediffuser tout ce qu'on arrive nous à centraliser, à essayer d'enrichir. Ils savent qu'on est sur ces thématiques-là. Ils savent pas forcément dans quelle mesure l'information ou le témoignage qu'ils ont va pouvoir aider une autre affaire. En tout cas, ils nous le remontent pour pouvoir, au cas où, nous aider sur autre chose. Donc, eux, ils sont sensibilisés au cours de l'audition à se dire tiens, c'est étonnant. Il y a aussi le fait que ces affaires d'homicide, elles sont traitées par des unités Il n'y en a pas non plus 3000 en France, et que du coup, on a ce réseau qui se met en place, qui existait déjà avant la Diane, et qui se met en place. On a cet aspect central aussi, alors qu'on pourrait nous reprocher en disant bah, c'est tout est centralisé, mais en fait, ça permet de redistribuer l'information et donc de la redistribuer à la bonne personne, celle qui en a besoin et qui ne le sait pas.
Et pourquoi ça dépend de la gendarmerie et pas de la police ?
Alors, chaque unité, chaque force a sa propre unité. Donc, la gendarmerie s'est dotée de la Diane et chacun travaille sur sa zone de compétence et ses dossiers.
Et quelle est la différence entre une zone de compétence qui dépend des policiers et des gendarmes ? Est-ce que la distinction, elle est si claire que ça sur certaines affaires ? C'est un problème de localisation, d'événements, de temporalité ?
Alors, c'est une localisation. Et puis, une affaire de saisine du procureur ou du juge d'instruction qui saisit l'unité qu'il souhaite en fonction, généralement, de sa zone de compétence. Donc, on a la possibilité de travailler, évidemment, sur des dossiers communs. Il n'y a pas d'approche patrimoniale.
Ce n'est pas des corporations qui sont en rivalité.
Les affaires police et les affaires gendarmerie. Bien sûr que dans les faits, c'est ça. Mais s'il faut échanger, on échange. On se structure justement pour pouvoir communiquer comme ça. Et l'intérêt, c'est celui des victimes et des familles.
Mais justement, si on revient sur cette idée de compétences, Marie-Laure Brunel-Dupin, quelle est la spécificité des compétences de cette division Diane ? C'est qu'il y a une multiplicité de compétences, c'est que vraiment vous êtes spécialisé dans un certain domaine ?
Alors oui, on est spécialisé, puis on a des capacités qui se structurent, qui sont et qui n'existent qu'ici parce que toutes les unités n'ont pas la capacité d'investir, de prendre du temps, de former sur ces capacités. Donc on a des capacités qui permettent de faire des parcours de vie ou des parcours criminels, des capacités en sciences du comportement pour analyser les scènes de crime et dresser des profils d'auteurs. On a des capacités en matière d'analyse d'affaires non élucidées anciennes, c'est-à-dire reprendre un dossier, mais pas juste le lire, sinon on aboutirait nulle part et ça prendrait un temps considérable. Donc on a des capacités qui innovent aussi en termes de disparition. On essaie de s'améliorer parce que c'est compliqué aujourd'hui d'investiguer sur ces dossiers-là. Donc en fait, on a des forces qui viennent au service de chaque unité de gendarmerie de France quand elle en a besoin de ces capacités-là qui vont s'associer, parfois travailler séparément en fonction du besoin ou se mettre ensemble, tout ensemble, pour obtenir justement une nouvelle vue sur le dossier.
Donc la Diane où vous travaillez, c'est la division des affaires non élucidées. Vous l'avez dit, ça a été inauguré le 9 octobre 2020, c'est ça ? Et ça a vraiment été mis en exercice au printemps 2021, est-ce que c'est bien ça ?
Alors, historiquement, c'est ça, mais en fait, ça fait bien plus longtemps qu'on travaille ces affaires-là. Simplement, c'est la structure, elle, qui est nouvelle.
Et pourquoi il y avait besoin, justement, d'une structure qui, finalement, venait juste nommer ce qui était déjà là ?
Parce qu'on avait les forces. Les forces, elles étaient éparpillées. Finalement, ça donnait des bulles de capacités qui travaillaient les unes à côté des autres, chacune bien dans son domaine, mais sans forcément de lien. Et finalement, tous les espaces entre ces bulles de capacités étaient vides. Et donc, on s'est dit, c'est dommage de travailler séparément sur ces thématiques communes. Si on s'associe, on va forcément être plus fort. C'est l'adage de tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin.
Et alors on a aussi vu que ouvrir un nouveau pôle judiciaire dédié à ces affaires non élucidées, donc là et aux crimes en série, c'est à Nanterre, ça a été inauguré le 1er mars 2022, c'est un projet qui a été porté par le garde des Sceaux. Il y a vraiment quand même une tendance à miser ou du moins à se pencher sur ces affaires non élucidées.
C'est une tendance, c'est important et ça demande une spécialité. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de ça, c'est que tout le monde ne peut pas le faire, alors parce qu'il faut une expérience particulière, il faut du temps, il faut de l'énergie, des moyens, et ce serait dommage de le faire une fois et de ne pas faire profiter les autres affaires. Donc en centralisant comme ça avec ce pôle de Nanterre ou la Diane, on a la capacité de redistribuer tout ce qu'on apprend sur chacun des dossiers tout de suite à tous les autres.
Mais par exemple, vous, Marie-Laure Brunel-Dupin, vous avez en tête tous les dossiers qu'il y a à la Diane. Donc, par exemple, vous voyez un élément, vous vous dites « Ah, ça me fait penser à tel dossier, je vais tout de suite aller voir les collègues qui travaillent dessus. » C'est comme ça que vous procédez ?
Alors, tous les dossiers qu'il y a à la Diane, oui, je les connais.
Il y en a beaucoup ?
Il y en a pas mal. Et il y en a
ça se
beaucoup
mesure quoi,
en
dizaines ou...
Oui, c'est plusieurs dizaines. Le pôle nous en a confié beaucoup aussi depuis mars. Et après, tous les enquêteurs travaillent ensemble. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise de se mettre en lien. Ils ont des points réguliers sur les affaires. Ils vont faire les liens entre eux. S'il faut, on va mettre en place même des capacités de comparaison. Pour comparer les frais entre eux, mais d'un point de vue pas seulement objectif et factuel, mais par exemple, les sciences du comportement vont faire une analyse comparative. Et là, ils vont travailler sur le comportement de l'auteur des faits sur deux faits non résolus, deux ou plus d'ailleurs, pour comparer pas juste du factuel ou pas juste du mode opératoire.
Donc ça veut dire que dans votre division, vous ne misez pas forcément sur une affaire en particulier, c'est toutes les affaires qui vous occupent un peu tout le temps, ou beaucoup à certains moments, mais en gros, il n'y a pas d'affaires mises de côté pendant plusieurs mois, tout est généralement réactualisé.
Alors, tout n'avance pas à la même vitesse, parce que c'est parfois, il faut commencer par de l'archéologie judiciaire avec certains dossiers.
C'est vraiment le terme que vous employez, de l'archéologie judiciaire.
Parce qu'il faut aller chercher les scellés à la lampe frontale dans les greffes. C'est compliqué, tout le monde le reconnaît et c'est pour ça que tout le monde a décidé de s'unir pour que ça change.
Parce que justement, il y avait trop d'affaires qui étaient laissées de côté et que c'était déjà un effort d'aller chercher le dossier au fond des greffes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et puis parce qu'ils sont submergés. C'est pas un manque de volonté, c'est que c'est compliqué, c'est long, c'est un travail de spécialiste et que on n'était pas armé et dimensionné pour le faire. Aujourd'hui, tout le monde s'organise parce que ça a été trop longtemps comme ça. Et donc, on ne juge pas. On se dit juste bon, comment on s'améliore. Et on se met tous en ordre de marche pour que ça s'améliore.
Marie-Laure Brunel-Dupin, vous avez beaucoup insisté sur ce terme de spécialiser, d'être spécialiste. Je vous propose d'écouter l'extrait d'une série que vous devez forcément connaître et sur laquelle vous avez forcément un avis. C'est l'extrait de la série Esprit criminel où on entend justement la spécialisation d'un policier sur une scène de crime.
Notre inconnu est de race blanche, il a entre 20 et 30 ans, on ne le remarque pas de prime abord. Rien ne permet de le distinguer dans la foule. La nature violente de ses crimes suggère qu'il ait pu commettre de précédents délits, quelques délits mineurs, peut-être des vols de voitures. Nous l'avons classé parmi les tueurs organisés. Prudent, un psychopathe, à l'inverse d'un psychotique. Il suit les actualités, il a une excellente hygiène, il est intelligent. C'est d'ailleurs pourquoi les seules preuves ou indices que nous puissions trouver sont ceux qu'il veut que nous trouvions. Il a sûrement un véhicule en excellent état, à notre avis une Jeep récente avec des vitres teintées. Les meurtres ont tous été précédés d'un viol. Mais le viol sans pénétration est une forme de piqueurisme et dénote inadéquation et déviance sexuelle. Les évaluations psychiatriques révéleront un historique paranoïaque trouvant sa source dans un traumatisme ayant eu lieu dans l'enfance, mort d'un des parents ou d'un membre de la famille. Il se sent persécuté et observé. Les meurtres lui donnent un sentiment de puissance. Les tueurs organisés ont une fascination pour la police. Ils vont vouloir se glisser par tous les moyens dans le déroulement de l'enquête. Ils vont aller jusqu'à se présenter comme témoins souvent, et ce dans le seul but d'apprendre ce que nous pouvons savoir. Ils ont l'impression d'être puissants, de tout contrôler. C'est d'ailleurs pour ça que je crois. En fait, que je sais que vous avez déjà interrogé cet homme.
Est-ce que vous connaissez cette série Esprit criminel, Marie-Laure Brunel-Dupin ?
Oui, je la connais.
Et alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous procédez comme ça en 1 minute 39 secondes, hein, j'ai le décompte sous les yeux. En 1 minute 39 secondes, vous avez le profil très précis donc d'un suspect, alors, type tueur organisé.
Non, nous, on ne mettra pas plus de 45 secondes. Non, on est très très loin de notre réalité. C'est des semaines de travail. Là, on ajoute en plus de la fiction proche de la boule de cristal. Donc, dans les concepts de là pour le coup, esprit criminel décrit de l'analyse comportementale. On analyse les éléments factuels d'une scène de crime pour comprendre l'auteur. Évidemment, on ne va pas décrire la couleur de sa Jeep, mais on va surtout aider les enquêteurs à comprendre ce qui s'est passé. Donc le concept est là, on n'a pas de vision, il n'y a pas de côté magique à tout ça. C'est malheureusement ce que développent beaucoup de séries. Esprit criminel ne développe pas ça, plutôt un travail... Esprit criminel, un travail pluridisciplinaire. Oui. Donc, eux, ils orientent là-dessus, et ça, c'est une réalité. C'est un travail pluridisciplinaire, c'est un travail d'équipe. Personne tout seul. Donc ça, c'est la partie crédible de l'histoire. Pour le reste, c'est très, très, très loin de la réalité.
Vous avez employé ce terme de comprendre. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Comprendre, c'est-à-dire, il faut se mettre à la place du potentiel tueur, il faut comprendre les rapports de force, les liens qu'il y a eu, l'histoire. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Donc, comprendre, il faut d'abord comprendre le crime et le reconstruire. Avec les éléments objectifs qui sont ceux de la criminalistique et de la médecine légale. Donc tout ça, ça permet déjà de raconter le crime dans ses éléments factuels, comment il s'est déroulé. Ensuite, on essaie de comprendre l'interaction entre l'auteur et la victime. Mm-hmm. Qu'est-ce que l'auteur a mis de lui ? C'est pour ça aussi que tous les crimes ne sont pas analysables de ce point de vue-là, parce que forcément, quand c'est un tir d'arme à feu à distance, on n'a pas cette notion de comportement à analyser et à décrire pour les enquêteurs. Donc, c'est comprendre ces interactions, c'est comprendre les réactions, les prises de précaution ou l'absence de prise de précaution. C'est vraiment le faire de façon très concrète. On n'est pas sur un jargon très sorti des manuels où on va décrire des maladies en latin. On va être très concret pour des enquêteurs pour qu'ils comprennent leur crime. Ils ont déjà fait une bonne partie de la résolution quand ils savent à qui ils ont affaire, à quel type d'individu. Donc c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent là-dessus, surtout que ce sont des affaires complexes, justement, et qu'il y a cette part de compréhension sur laquelle, si on n'a pas passé ce cap-là de qu'est-ce qui s'est passé et quel genre de personnalité pour avoir fait ça, on est coincé.
Mais alors, par exemple, pour être très concret, est-ce que vous, Marie-Laure Brunel-Dupin, on vous appelle, on vous dit, voilà, Marie-Laure, il y a eu un crime, on a besoin de toi, ça nous a l'air complexe. Vous arrivez comme ça, immédiatement, et là, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, c'est un peu ça. c'est surtout qu'on va me dire, voilà, il s'est passé ça, on a besoin d'aide. Et moi, je vais répondre, comment on peut vous aider ? Et à ce moment-là, on va se réunir avec les équipes de la Diane pour voir mm-hmm. quelles sont les capacités qui sont en mesure d'être engagées en fonction de ce qui vient de se passer ou de ce qui s'est passé dans le temps.
Donc, ça dépend déjà de la forme du crime, d'une certaine manière.
C'est ça. Mm-hmm. Si c'est une disparition, si c'est un homicide, si c'est une découverte d'ossements, c'est... Tout ça va générer une sorte de groupement de capacités qui va changer à chaque fois. C'est vraiment du sur-mesure qu'on apporte au dossier. C'est pas systématiquement les mêmes forces. Et puis, on va évidemment prendre attache avec l'unité pour être au plus près de leurs besoins et leurs nécessités. Et puis, évaluer ensemble comment on peut les aider.
Donc là, à ce moment-là, vous vous rendez sur place avec l'équipe qui vous semble la plus à même d'être en lien sur ce dossier, de travailler sur ce dossier. Et là, qu'est-ce que vous faites en fait ? Comment on observe en fait une scène de crime, sachant que, comme vous le dites, si c'est des ossements, a priori c'est une scène de crime. Ça se trouve, c'est même pas la scène du crime, c'est là où le corps a été déplacé, mais c'est quand même une scène qui est datée. Donc comment vous faites ?
Alors, ce sera une scène de découverte. En fait, on fait vraiment la différence entre toutes ces scènes. Il y a le degré d'urgence qui vient prendre en compte l'urgence à se déplacer aussi. Si c'est une scène de découverte d'ossements, on va pas projeter des forces qui vont pas travailler sur les autres dossiers en même temps. Il va y avoir le gel des lieux, le relevé des traces et indices, tout va être traité. Et puis ensuite, on va travailler sur le dossier, aider les enquêteurs. La première chose, c'est que eux tout seuls vont essayer d'identifier ces ossements. Ensuite, quand on a une scène de crime urgente qui vient de se commettre et qui est vraiment hors norme, là, oui, il y a des capacités de la Diane qui vont se projeter. Et puis, chacune, en fonction de sa capacité, va se mettre en action. Donc, les sciences du comportement vont se rendre sur la scène de crime, prendre en compte les éléments objectifs, sans entendre parler des suspects.
Ça veut dire quoi, les éléments objectifs ?
C'est les éléments concrets de la scène de crime sans interprétation.
Donc ça veut dire il y a un pot de fleurs ici, il y a une porte qui est restée ouverte, il y a un placard qui est cassé, des choses comme ça.
C'est ça. Il y a des empreintes, pas d'empreintes ou des empreintes effacées. C'est pas de savoir à qui appartiennent les empreintes qui les intéresse, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il faut commencer à reconstruire, donc il faut commencer à les voir. Donc en prenant en compte évidemment le gel des lieux,
C'est... Le gel des lieux, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que la préservation de la scène, ils vont venir au moment où le technicien leur dira de venir. Ils seront équipés pour aller sur la scène de crime.
Pour pas contaminer justement la scène.
Exactement, pour pas polluer. Donc, dans le respect de ces procédures-là, ils vont aller voir ce qui s'est passé pour commencer à reconstruire. Alors, ils le font pas sur place, hein, c'est pas immédiat en voyant une clé sur sur une porte. Ça veut dire quelque chose. C'est pas un élément qui a une signification. C'est un ensemble d'éléments remis en place dans un contexte par rapport à une personne. C'est pour ça que 1 minute 30 ne suffisent pas à faire
à déterminer un profil.
C'est ça. C'est alors, vraiment un travail méthodologique qui est mis en place. Alors et pendant ce temps-là, mais d'autres capacités vont faire d'autres choses. Par exemple, des relevés de caméras de vidéosurveillance, et ça vient de se produire. Aider sur des auditions.
Interroger peut-être des gens autour.
Voilà, participer à ce genre d'actes ou aider à un certain nombre d'actes de procédure, justement parce qu'on sait que peuvent se jouer dans les premiers temps tout un tas d'erreurs qui ne seraient pas rattrapables après. Donc, ils ont cette expérience pour aider et participer. Après, c'est aussi une de nos forces, c'est de mettre un maximum d'équipes et de capacités pour que le dossier sorte tout de suite.
Et pour rien rater.
C'est ça.
Alors, à ce moment-là, quand vous êtes sur place et qu'en fait, les équipes ont recueilli le maximum d'informations, puisqu'il ne s'agit pas d'interpréter à ce moment-là, il s'agit juste de recueillir le maximum d'informations, si je vous ai bien suivi. Après, une fois qu'on a toutes ces informations-là, qu'est-ce qui se passe? On revient à la gendarmerie, on met ensemble les différentes pièces?
Oui, c'est ça. Ils vont remonter, ils vont mettre en place leur protocole, et puis ils vont reconstruire... analyser, lire les auditions, s'il y en a, vraiment prendre la globalité du dossier sans les hypothèses, si jamais il y en avait, pour pas être orienté.
C'est quoi à ce moment-là les hypothèses ?
On ne sait jamais, il pourrait y avoir un enquêteur qui dit « Ah bah moi j'ai entendu telle personne et il m'a semblé bizarre dans ses réactions ». Donc ça, on ne veut pas en entendre parler. Parce que c'est de la spéculation ou de l'interprétation.
Donc tout ce qui est ressenti, émotion, tout ça, c'est...
Il n'y en a pas, il n'y a pas la place. C'est pas fait, c'est pas là pour ça, et c'est ce qui fait une grosse différence, justement, avec les aspects cinématographiques.
Il n'y a pas de flair, quoi. Il n'y a pas de flair, il n'y a pas d'intuition, c'est pas Maigret.
Non, c'est avec des protocoles, une méthode, une équipe, dans un fonctionnement logique, fait par des officiers de police judiciaire. Donc ce sont des enquêteurs spécialisés, mais ils sont enquêteurs. Donc, c'est des gendarmes.
Donc, à ce moment-là de l'enquête, il n'y a pas d'hypothèse. Donc, vous examinez les pièces et vous les mettez en rapport pour comprendre la relation qui pouvait unir l'auteur du crime à la victime, c'est ça?
C'est ça. Et aussi, développer quel genre de personne on cherche.
Ouais, ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où on fait de la psychocriminologie, c'est ça?
Oui, c'est ça. On fait de l'analyse comportementale, on fait le profil de l'auteur inconnu.
C'est le travail de ce qu'on appelle les profilers aussi, c'est ça, si on n'aime pas les anglicismes.
C'est encore un anglicisme, c'est pour ça que je préfère analyste comportementaux.
Vous vous définissez comme analyste comportemental?
Comportementaux, oui. Comportementaux, parce que j'en ai plusieurs.
Ah, oui, oui.
Mais oui, c'est ça. Et en plus, ça va, leur fonctions vont bien plus loin que le profil d'auteur. C'est pour ça que profiler, c'est quand même un raccourci sur toutes les missions qu'ils sont capables de faire. Donc oui, il va y avoir cette analyse, cette mise en commun, ces liens entre les pièces, cette reconstruction, et puis des liens permanents avec les enquêteurs pour enrichir, récupérer des éléments nouveaux, que ce soit aussi en criminalistique, apprendre qu'il y a un ADN inconnu, par exemple, c'est intéressant, ou apprendre qu'il n'y en a pas, ou que les traces ont été effacées, qu'il y en avait mais qu'elles ont été effacées. Tout ça, ça change forcément le genre de personne qui a pu faire ça. Et donc, ils vont décortiquer tout ça selon ces méthodes pour aller expliquer qui on cherche et peut-être donner des pistes aussi de mobile.
Alors, qu'est-ce que vous entendez quand même par personne? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire profil dans ce genre de cas? C'est définir une identité? C'est définir des comportements? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est décrire un type de personnalité qui est susceptible d'avoir commis ce crime. Ça définit aussi son peut-être Dans certains cas, il n'y a pas de checklist type où on ne répond pas à un certain nombre à toutes les questions à chaque fois, mais ça peut être savoir si il a des antécédents, peut-être qu'il a déjà des antécédents de violence, ou se dire que il y a beaucoup de colère vis-à-vis de la victime et que ça a une signification pour lui. Après là, c'est très abstrait la façon dont je le raconte, mais ça dépend de chaque dossier est différent et chaque dossier va amener un certain nombre de critères qui vont décrire cette personnalité.
Vous pouvez par exemple établir le fait que ce soit signé très très méthodique, par exemple l'œuvre d'un tueur en série, ou au contraire un acte qui serait pas prémédité, mais au contraire presque impromptu.
Alors oui, on va justement faire cette distinction entre le meurtre d'opportunité et le
ça s'appelle
crime,
comme ça
le prémédité, c'est ça. Après, dire que c'est un sériel sur une scène de crime, c'est compliqué. Se poser la question de est-ce qu'il n'a pas de l'expérience, étant donné le degré de sophistication. C'est plutôt selon cet aspect-là qu'on se posera la question. Parce que c'est jamais aussi clair. Après, les dichotomies organisées, désorganisées, ça fait très série, c'est très film. C'est aujourd'hui, on n'étudie pas ça comme ça, mais c'est quand même des critères qui font appel à la criminologie. Donc, on dit la psychocriminologie, c'est une des branches de la criminologie. Alors, c'est de la criminologie très concrète, hein, c'est pas la criminologie de l'ombre aux os, mais on a cet aspect-là qui rentre en compte pour comprendre ces interactions. La criminologie, ça fait appel tant à la sociologie qu'à la psychologie, qu'à tous ces aspects-là. Donc, c'est cette mise en commun de ces disciplines qui permet d'avoir une vision précise sur le genre d'individu capable potentiellement d'avoir commis ce crime.
Demandez, Géraldine Mosna-Savoie.
crainte que l'ombre de la tour pointue répand sur le monde des malfaiteurs. Elle la doit en partie au système de reconnaissance établi par Alphonse Bertillon. C'est là qu'il mit au point une nouvelle technique d'identification basée sur les mensurations et la classification des apparences physiques. Dans ses locaux, sous les combles de la préfecture de police de Paris, où sont toujours logés ses services et où, depuis 50 ans, sont montés et descendus tant de pas. Ce fut la naissance de l'anthropométrie qui a permis dans la recherche des criminels tant de succès éclatants. Avec l'adjonction de la photographie et l'adoption du système des empreintes, l'identification judiciaire disposa alors d'un arsenal efficace qui a permis l'établissement d'un véritable fichier du crime et qu'ont adopté les polices du monde entier. Saluons avec le professeur Sanier qui la continue, l'œuvre de Bertillon qui naquit voici justement 100 ans.
Alphonse Bertillon qui a donc créé l'anthropométrie. Et maintenant, l'anthropométrie, j'imagine, Marie-Laure Brunel-Dufin, ce n'est pas du tout quelque chose auquel vous faites appel. Maintenant, il y a de nouvelles technologies qui ont remplacé ça. Quand on travaille justement sur des affaires non élucidées assez vieilles et qu'on n'a rien sauf des moyens de l'époque, comment on fait ?
Alors, on a la chance de pouvoir utiliser des moyens modernes sur des dossiers anciens. D'abord, on retourne toujours sur les lieux. Alors, des fois, on y va avec un classeur à spirale et des photos argentiques.
Mais surtout, qu'est-ce qui reste des lieux 50 ans plus tard ?
Bah, étonnamment, sur beaucoup d'affaires, il reste...
L'essentiel.
Il reste l'essentiel comprendre ce qui s'est passé, puis commencer à remettre, à recontextualiser la scène. Alors, de temps en temps, il n'y a plus rien, il y a un bâtiment. Mais on est très surpris de pouvoir aller sur les lieux avec le cahier à spirale de photos et puis retrouver quasiment, à part la végétation, les lieux comme ils étaient il y a 10 ou 15 ans. Donc, bien sûr, on a des moyens modernes. C'est le cas notamment pour les capacités, les autres capacités de la DIAN, puisqu'on n'a pas que les sciences du comportement. On a une capacité d'analyse d'enquêteurs spécialisés qui est très importante et qu'on développe avec des outils particuliers.
Donc, c'est justement. Quoi, par exemple, les outils ? Vous pouvez en parler de ces outils ?
Alors, par exemple, on déconstruit les dossiers criminels en les séquençant dans une carte mentale.
Ah, mais ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que plutôt que de lire dans l'ordre chronologique un dossier, on va ranger au fur et à mesure de ce qu'on lit la pièce au bon endroit et mettre de la continuité dans les pièces. Si on a deux auditions qui sont liées, plutôt d'attendre 150 pages entre les deux auditions, on va tout de suite aller chercher l'audition qui y renvoie, la mettre en lien dans la carte mentale et regarder si elles sont toutes les deux pareilles. Mmh. Et voir si ensuite, dans les investigations, tout ce qu'il y a dans les auditions a été investigué.
Alors ça, par exemple, donc ça, c'est une des spécialités de ce pôle de DIAN. Et quelles sont les autres ? Parce que on a parlé, effectivement, vous l'avez dit, hein, des sciences du comportement dans l'agent. C'est vous, d'ailleurs, qui les avez créées, il faut quand même le signaler, Marie-Laure Brunel-Dupin. Et donc, quelle autre spécialité ?
Donc, cette analyse de dossiers anciens, on a aussi des capacités de parcours de vie et de parcours criminel pour replacer dans le temps et dans l'espace un auteur dont on sait qu'il a pu commettre d'autres faits pour le parcours de vie. Et essayer de trouver d'autres victimes. Et pour le parcours criminel, ça c'est une nouveauté qui est arrivée grâce au pôle de Nanterre et à celles qui ont justement porté ce projet. C'est le parcours criminel, c'est pouvoir investiguer sur un tueur en série à partir du moment où il est jugé définitivement pour deux faits, chercher ce qu'il a pu faire d'autre et le chercher concrètement dans les bases, les dossiers, les archives, le papier, mais la version informatique. Donc c'est vraiment essayer de le repositionner partout pour essayer de voir ce qu'il y a pu y avoir d'autre en fait. Non élucidé sur sa route.
Mais est-ce que vous ne fonctionnez pas aussi d'un point de vue, parce que j'imagine aussi que c'est numérisé en partie ou c'est en voie de numérisation, tous ces dossiers, est-ce que vous ne faites pas ce qu'on appelle aussi des tags ou des référencements ? C'est-à-dire que s'il y a le nom d'une personne qui est référencée, le fait après de taper son nom dans le moteur de recherche va faire remonter tous les dossiers où elle apparaît.
Alors ça, c'est bientôt, mais ce n'est pas encore.
C'est pour ça que c'est compliqué de retracer.
C'est compliqué aussi parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre toutes les des affaires non élucidées dans une seule base et chercher des liens, on n'a pas le droit de le faire.
Pourquoi ?
Donc, parce que on a tout un régime de protection des données personnelles qui nous empêche de le faire. Alors, on est en train de faire évoluer les choses pour proposer autre chose. Ce serait dommage de construire des services comme le pôle de Nanterre ou la Diane et de pas pouvoir, mais on doit le faire dans le respect du code de procédure pénale et donc on est limité par un certain nombre de choses. Donc, on développe des capacités, on travaille avec de l'IA sur les dossiers. Mmh. On a la chance à Pontoise d'être colocalisé avec l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Donc, tous les aspects criminalistiques en technique de pointe sont aussi à notre disposition pour justement réinvestiguer des scellés et proposer des nouvelles analyses aux juges. Donc, on est un site unique pour toutes ces capacités qui sont réunies. Donc, on a vraiment ces capacités de pointe qui sont mises les unes avec les autres pour donner le meilleure chance au dossier d'être élucidé.
On a entendu dans cette archive qui fêtait le centenaire d'Alphonse Bertillon qui a donc créé l'anthropométrie que c'était une technique avec les empreintes vraiment pour approcher un crime, pour tenter de l'élucider. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technique qui apparaît ou des spécialisations comme vous venez d'en énumérer certaines, Marie-Laure Brunel-Dupin, est-ce qu'à chaque fois vous penchez sur tous les dossiers pour les remettre à jour avec ces nouvelles technologies?
Alors, on a des lectures des dossiers par des coordinateurs criminalistiques, justement pour se dire, à l'époque, on ne savait pas le faire. Voilà. Aujourd'hui, on sait le faire. Ça ne consomme pas beaucoup de matière, c'est rapide, ça vaut le coup. Ou d'autres...
Et ça, par exemple, ça a marché dans certains cas?
Ah, ça marche dans certains cas, oui.
Et vous allez finir, je vous ai interrompu, et dans d'autres
cas. Et dans d'autres cas, se dire, ça n'a pas encore assez évolué, ce serait dommage d'utiliser le scellé. Et donc, on va attendre un peu, puis on va essayer une autre technique. Mais aujourd'hui, les empreintes fonctionnent encore. Ça a beau avoir 100 ans par Bertillon, ça permet d'élucider un nombre d'affaires incroyables.
C'est encore ce qu'il y a de mieux ?
C'est le plus rapide et le plus efficace. L'ADN, c'est forcément un peu plus long et avec moins de gens dans la base. Donc. Après, c'est pas non plus que ces dossiers-là. Ce qui est important aussi, si vous me permettez, c'est de dire que on n'est pas que sur les affaires médiatisées. Il y a tout un tas d'affaires parfaitement anonymes et inconnues du grand public sur lesquelles on ne fait pas de tri comme ça. On regarde des affaires qui risquent d'être prescrites en date, donc on fait attention à la date. Mais on n'a pas du tout de pression qui pourrait être liée au fait que l'affaire est médiatisée ou non. Et nous, on est là pour les victimes, leur famille.
C'est ça qui compte. C'est ça l'urgence et le critère pour travailler sur une affaire.
C'est ça. Et du coup, forcément, on se dit qu'il faudrait les prendre tout en même temps. Là, c'est nos capacités qui ne le permettent pas. Donc, on les prend une par une, enfin, par dizaines, mais pas toutes en même temps. Ce serait impossible. Mais c'est vraiment... On n'oublie jamais, on n'abandonne jamais. Ça, c'est notre devise à la Diane. Et ça vaut pour toutes les victimes.
On n'oublie jamais, on n'abandonne jamais.
C'est ça.
Vous avez parlé justement de prescription et on peut parler aussi peut-être de temporalité parce que quand vous dites que vous revenez en fait sur des anciens cas, vous vous mettez dans la peau des enquêteurs de l'époque. Est-ce que vous pensez en fait toujours une affaire en termes de temporalité, c'est-à-dire voir ce que vous avez laissé à vos collègues plus tard, c'est-à-dire dans 40 ans, les technologies seront peut-être génialissimes, tout sera peut-être numérisé dans les fichiers. Est-ce que vous pensez à ça quand vous traitez d'un cas, en ce moment, en vous disant il faut que je fasse tout de manière nickel, vraiment pour laisser quelque chose le plus propre possible, d'une certaine manière.
C'est vraiment ça. Vous touchez du doigt quelque chose d'important parce que quand on reprend un dossier, on se dit ah oui, mais c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Et on en souffre en le reprenant 20 ans plus tard. Et mon objectif, c'est que si on n'arrive pas à sortir le dossier en 2022, 2023...
Donc à le sortir, ça veut dire
à l'élucider. Eh bien, je pense aux collègues de la Diane de dans 20 ans qui se diront, waouh, en 2022, quand la Diane reprenait un dossier, elle capitalisait sur le futur. Et si on n'y arrivait pas, ils préparaient tout pour l'avenir. Donc cette capacité, cette fonction rétex, on l'a. On se dit, voilà, il s'est passé ça, il y a 20 ans, on ne juge pas, c'était comme ça. On prenait les précautions qu'on prenait, et c'est comme ça qu'on devait faire. Et il n'y a vraiment pas à revenir dessus. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. Demain, on ne fera plus comme on le fait aujourd'hui. Et du coup, on fait attention de préserver un maximum en se disant, peut-être que demain, il faudra faire attention à cet aspect-là du scellé, qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui. et qu'on prendra en compte demain. Donc, on a vraiment cette capacité de penser, si on n'y arrive pas nous, peut-être que d'autres y arriveront.
Mais par exemple, vous pensez à quoi il y a 20 ans, on ne faisait pas attention à quoi, et maintenant c'est devenu très important, et dans 20 ans, ce sera quoi qui est important ?
Il y a 20 ans, on conservait des habits ensanglantés dans des enveloppes Kraft. On ne les faisait pas forcément bien sécher avant. Mmh. Ou alors, on les faisait sécher toutes sur un fil au même endroit.
C'est-à-dire que tout était mélangé.
Il y avait ce risque-là, mmh. voilà, parce qu'on ne savait pas pour les transferts ou pour la conservation.
Et l'enveloppe Kraft, j'imagine que ça contamine aussi
c'est
le
ça,
sang,
et c'est puis ça dans l'enveloppe Kraft, dans c'est, le sous-sol...
C'est pas propre, c'est pas hygiénique.
C'est ça. Donc ça peut être contaminé, ça peut être déchiré, abîmé. Et pour autant, aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas non plus le mettre complètement dans un sachet plastique hermétique, parce que ça peut aussi dégrader. Mmh. Et donc,
vous faites comment,
et on les garde avec un sachet plastique, mais troué dans des conditions d'hygrométrie et de température parfaite, constante, qui ne change jamais, au centre de préservation des traces biologiques, des prélèvements biologiques, le SCPPB, mmh. on a beaucoup d'acronymes, qui garde tous ces scellés très précieusement pour l'avenir.
Donc là, on a parlé de l'avenir, mais il y a plusieurs dimensions temporelles hein, quand même dans une enquête. Il y a aussi, vous avez parlé de la prescription. Alors ça, moi, c'est une chose qui vraiment m'interroge. C'est-à-dire qu'en gros, comment on fait quand il y a la prescription en France pour régler une affaire ? C'est-à-dire quelle justice on veut viser ? Est-ce qu'il s'agit de vite se ruer en fait sur les cas où il y a la prescription qui va tomber ou au contraire, en fait, on se dit, en fait, peu importe la prescription, est-ce que d'ailleurs ça c'est possible, une fois que même s'il y a la prescription, on continue à enquêter sur une enquête, sur un cas.
Oui, on fait attention à la date, bien sûr, mm-hmm. pour se faciliter les choses aussi, pour pas lutter contre des événements comme ça. Mais on sait très bien qu'on peut élucider un dossier prescrit. C'est possible et ça arrive quand on élucide une série. Mm. Et alors à ce moment-là, il y a une jurisprudence qui nous permet de rattacher un fait prescrit si le fait sur lequel on enquête est lié et non prescrit. Mais c'est des artifices jurisprudentiels. Ça reste pas une norme absolue. Mmh. Alors, pour nous, c'est une contrainte. Alors, je comprends que d'un point de vue du code de procédure, ça existe. Mais pour nous, c'est une contrainte. Et puis, les délais sont pas forcément ceux qui sont adaptés à la science. Donc, ouais. On a aussi besoin d'une extension de ces délais pour pouvoir se dire, on met en place le pôle spécialisé de Nanterre, on met en place la Diane. La police a ses services pour le faire aussi. Et quand on solutionne un homicide très ancien et on se rend compte en fait qu'il est prescrit, là c'est la catastrophe. Alors oui, ça rend une justice, ça donne une réponse, mais c'est vraiment insatisfaisant.
Voilà, c'est ça. La question, c'est quelle justice on veut quand il y a une prescription. C'est-à-dire que effectivement, ça peut soulager les familles.
C'est une vérité.
Oui.
C'est déjà ça. Mais c'est pas satisfaisant parce que cette énergie qu'on met, elle doit pas être limitée par une date.
L'énigme des chevaux mutilés n'est pas encore résolue, mais les enquêteurs semblent y voir plus clair jour après jour. Plusieurs pistes semblent d'ores et déjà écartées, à commencer par celle de rites sectaires ou sataniques. Le crime organisé, plus friand des revenus de la drogue, semble lui aussi exclu de l'équation. L'hypothèse en revanche de défis lancés sur Internet, elle, prend forme. Le Darknet et son réseau caché, si prisé des délinquants, pourrait bien servir à des internautes de discrètes salles de paris macabres. Ces derniers jours encore, les cas de mutilation se sont multipliés à travers la France, comme dans cette commune de l'Ain, où une jument vient d'être blessée avec une rare sauvagerie. L'émotion est de mise, mais chez certains éleveurs, la soif de vengeance revient en boucle.
Toute la nuit, je me relève toutes les deux heures pour faire une patrouille. Je vous dirai pas dans quelles conditions je le fais, mais je le fais, ouais. Il y a une parano qui s'installe tout doucement, ouais. Et je pense que ça peut facilement dégénérer en fait divers un jour ou l'autre. S'il n'y a pas une prise de conscience rapide, c'est clair.
L'affaire des chevaux mutilés qui a agité la France en 2020, notamment l'été 2020, typiquement, en fait, cette affaire, elle est intéressante parce qu'en fait, ça concerne des chevaux. C'est une affaire qui est très médiatisée. Dans ces cas-là, ce genre d'affaire, est-ce que c'est une affaire qui est typiquement un cas complexe pour vous, intéressante, déjà parce que ça traite d'animaux, mais aussi parce que, en fait, il s'agit médiatiquement de répondre en fait à ce genre aussi de demande d'inquiétude généralisée.
Alors, on a répondu médiatiquement en expliquant que ce n'était pas un phénomène et qu'il n'y avait pas d'affaires des chevaux mutilés. Alors, ça a été compliqué, ça a été beaucoup de travail pour les unités de gendarmerie de pouvoir prendre en compte ces faits qui étaient rapportés, les expliquer grâce aux renseignements criminels. Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie a travaillé d'arrache-pied sur ces renseignements pour pouvoir les analyser. Et puis, on a aussi travaillé sur les aspects de comportement pour se poser la question de est-ce que c'est du comportement humain, sadique ou pas. Après, c'est très à la marge. C'est vraiment... où est le commencement ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ça a été un phénomène médiatique. Mais ce n'est pas un phénomène réel, ça c'est important, ça a été un phénomène fantasmé, parce que les gens sont mis à avoir peur, ça c'est une réalité, mais sur la base de
faits... On entend d'ailleurs.
Oui, et c'était réel, et c'est pour ça qu'il fallait apporter une réponse. Après la réponse, elle est claire et nette, il n'y a pas eu de phénomène. Il n'y avait pas plus de faits que d'habitude, en revanche on en a parlé beaucoup plus, et ça a créé une psychose, et ça a créé un phénomène... dans le rapport ou le report d'événements, mais c'est resté à la marge comme les années précédentes.
C'est intéressant ce que vous dites, Marie-Laure Brunel-Dupin, sur cette idée de la part des médias et puis aussi d'autre part, et ça va, c'est vrai ensemble, de la fascination. C'est-à-dire que ce genre d'affaires, d'ailleurs on a commencé par le terme de cold case, dès le début j'avais un extrait de série en tête, il y avait le film d'Alain Chabat, il y avait Esprit criminel, enfin il y a une sorte de fascination en fait pour ces affaires-là. Est-ce que une grosse part de votre travail aussi, c'est de faire la part des choses entre la fascination mais aussi d'apporter des réponses, c'est-à-dire de savoir en fait quand il s'agit de ne pas répondre, de dire ça c'est du fantasme et de dire là je vais vous apporter une réponse parce que là c'est vrai, vous avez besoin d'avoir une réponse.
Alors dans le milieu des enquêteurs, dans le milieu professionnel, on n'a pas cette partie fantasmée, donc on a vraiment un gap entre le grand public et ce qu'il estime, ce qu'il pense de ces affaires-là, mais qui est véhiculé par les séries, qui n'est pas son choix. Mais c'est vrai que tous les soirs, on peut avoir une série sur ce sujet-là.
Il y a la mode des faits divers, c'est-à-dire depuis quand même les années... ça dure depuis très longtemps, mais genre l'affaire du petit Grégory, par exemple, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement.
Donc ça crée effectivement des fantasmes, beaucoup de spéculations sur ce qu'on fait ou pas, beaucoup de mythes sur le spécialiste de ce genre d'affaires. Dans la réalité et dans le milieu des enquêteurs, on est loin de tout ça, on est très concret, on est très opérationnel et très efficace, et donc on est loin de ça. Maintenant, il y a ce travail de pédagogie, finalement, comme on est en train de le faire, d'expliquer ce qu'on fait vraiment, d'enlever le côté fantasmé des affaires. Toutes nos affaires sont terribles, parce qu'elles impliquent des vraies familles et des vraies affaires. Et pour ça, elles comptent sur nous, elles comptent sur l'énergie qu'on va mettre chaque matin pour aller travailler. Et c'est la seule chose qu'on garde et qui est vraiment importante pour nous.
Donc, vous essayez de ne jamais être contaminé, par exemple, quand les médias s'emparent d'une affaire, de ne jamais être contaminé par ça. Est-ce que c'est si facile que ça, en fait ? Parce que vous parlez d'un gap, donc d'un écart entre le grand public et vous, mais de fait, quand c'est quelque chose qui vient de manière récurrente, je ne parle pas d'une série, je parle vraiment d'une affaire qui agite, en fait, la France. Comment on fait pour se protéger de ça ?
On n'écoute pas.
Mais c'est si facile que ça ?
En fait, oui, parce que d'abord, notre quotidien est comporté de ça, mais des vraies informations. Alors forcément, on nous en parle, forcément, on fait des liens, mais on a une distance qui se met vraiment naturellement. Peut-être que pour les plus jeunes, ça aurait pu avoir un impact, mais pour nous, c'est vraiment très à distance. Et on zappe, on lit pas l'article, on développe pas, on sait qu'il va être dit tout un tas de choses. Il y a des affaires très médiatisées en ce moment, où on découvre des actes d'enquête dans la presse. C'est plutôt déroutant et problématique pour l'enquête.
Vous, ça empêche votre enquête, parfois ?
Parfois, oui. C'est vraiment dommageable de lire exactement tout ce qu'on fait.
Mais comment ils ont ces infos-là ?
Je ne sais pas. J'ai une petite idée, mais je... ne me prononcerai pas, faute de preuves. Mais c'est un problème. Et du coup, c'est vrai qu'on prend vraiment de la distance avec ça pour pouvoir rester à la tête froide, objectif, et pas se polluer avec tout ce qu'on dit de l'affaire.
Une dernière question, parce qu'on arrive bientôt au terme de notre échange, Marie-Laure Brunel-Dupin. C'est la question aussi du moment du jugement, des assises, en fait. Hein. Ce moment-là, le moment où l'affaire, elle est finalisée, comment ça se passe? Vous avez fini votre enquête, vous avez transmis votre dossier et vos conclusions au juge, et quelques mois après, des années après, en fait, ça passe en jugement, et là, vous devez vous rappeler, en fait, ce qui s'est passé. C'est ça?
Là, c'est ça. Et c'est un exercice qui est parfois difficile, hein, parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres
affaires.
Vous aimez
bien ce moment ou c'est vraiment le pire pour vous?
Alors, c'est pas le pire. C'est compliqué, c'est très stressant.
Ouais.
Parce que faut aller rendre des comptes sur ce qu'on a fait.
Ouais.
Que parfois, en fonction des situations ou des sessions d'assises, on a un peu l'impression d'être accusé de l'avoir mal fait. Et donc, c'est difficile à vivre pour les enquêteurs comme position d'aller... Alors c'est normal d'expliquer comment on a fait et de rendre des comptes, bien sûr, mais parfois c'est très incisif par rapport à ce qu'on y a mis. Et puis parfois il y a beaucoup de temps qui passe, donc ça demande une grosse préparation pour l'enquêteur pour se remettre dans le dossier et se souvenir exactement.
Et puis c'est le point final d'une enquête et le retrouvaille avec les familles aussi.
C'est ça. Alors c'est pour ça que c'est pas le pire.
Ouais.
C'est aussi pour aller dire bah voilà, on a bien travaillé il y a des années et aujourd'hui on est là pour ça. Et donc, c'est un aboutissement, c'est un passage obligatoire. On peut aussi être fier du travail qu'on a fourni. Donc, c'est pas agréable, pas forcément agréable, parce que, justement, il faut faire appel à cette mémoire et puis se défendre parfois. Mais c'est important. Et puis, finalement, c'est la reconnaissance du travail fourni d'enquêteurs, d'officiers de police judiciaire. Et ça, on y est très attaché. Donc, il faut y aller.
Merci beaucoup Marie-Laure Brunel-Dupin, c'était un plaisir de parler avec vous, je crois que j'ai tout compris, c'était un peu flou pour moi là, j'ai tout compris, donc je ne dirai plus au cold case mais aux affaires non élucidées. Alors de vous, on peut lire peut-être encore, je ne sais pas, coécrit avec Lydia Négrier-Dormont, Regard sur le crime et le criminel aux éditions Amalté.
Alors c'est plus disponible mais... arrive bientôt un roman coécrit qui est romancé mais qui parle d'une vraie carrière professionnelle.
Eh bien, on vous lira. Merci encore.
Souvent, on m'a dit qu'elle n'a pas de lèvres ni d'yeux. Ce sont des creux. Sa pâle blancheur, c'est la lumière. Son autre figure n'est plus un mystère. Ils ont tué la lune, mon vieux Pierrot. Ils ont tué la lune. Et toi, tu l'aimes. Sur son visage, leurs pieds de plomb, mais ça viendra dès qu'ils seront sur son sourire. Elle va mourir, mourir pour toi. Ils ont tué la
Merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laure Dallest. Réalisation Louise André, prise de son Florent Bujon. On se retrouve demain pour oser se demander comment rater sa vengeance et vous aurez la réponse avec le personnage de Diderot, Madame de la Pommerée. On se retrouve aussi sur les réseaux Twitter, Instagram et bien sûr sur le site de France Culture, à la page de Sans oser le demander ou encore bien sûr sur l'application Radio France. À demain sur France Culture. Thank you.